Le questionnement est le suivant. À une époque indéterminée, quelles étaient les principales manifestations culturelles et artistiques dans le monde? Alors le problème qui s'est très vite posé dans ce questionnement, c'est celui de la densité de ces manifestations vues à un même moment. Et ce point m'a conduit à sélectionner des thèmes majeurs, tels l'animal, les empreintes de main, la peinture murale, la cité, les sanctuaires et les tombes, les objets en bronze, les réseaux de communication et le commerce, l'art du portrait, le paysage, le rococo dans l'art, en Europe comme en Chine au XVIIIe siècle, la politique et les mouvements révolutionnaires, les sujets religieux, notamment la crucifixion, pourquoi est-ce un thème prégnant de l'art contemporain? Et cette sélection de thèmes, et j'ai pas cité tous les thèmes que l'on abordera cette année, permet de limiter notre approche et de la rendre présentable, sinon c'est pas faisable du tout comme programme. Remarquez aussi qu'il n'y a pas de fil conducteur, mais une complémentarité des thèmes abordés dans un parcours chronologique qui, de la préhistoire, nous achemine à l'époque contemporaine. Cependant, ce qui ressort de ce programme, c'est la question des civilisations qui se font et se défont, la permanence des cultures, la transmission et l'héritage. Et ça, je crois que c'est une question d'actualité. C'est une question qui est vive, qui est brûlante, là, en ce moment. La question de la permanence des cultures, de la transmission, de l'héritage. Enfin, les civilisations qui se font et se défont. Ainsi, il y a 30 000 ans, un art aborigène se manifestait en Australie. Or, actuellement, l'art aborigène est toujours aussi vivant, reposant sur des critères esthétiques et iconographiques qui n'ont quasiment pas changé. Et cela, malgré la dégradation de la situation des aborigènes depuis l'installation des Européens sur le continent, sur ce continent qu'est l'Australie, et rappelant à ce propos que les colons ne leur ont accordé la citoyenneté australienne qu'en 1967, alors qu'ils s'y sont installés il y a 50 000 ans. L'art aborigène constituera le début et la fin de notre programme, histoire de fermer la boucle. Et à tout cela s'ajoute un sujet d'actualité, le climat. Le climat a-t-il une incidence sur l'apparition d'une civilisation et donc l'émergence d'une culture, notamment la culture artistique. De même, le climat a-t-il une incidence sur la disparition d'une civilisation? Alors ce programme, c'est celui qui s'affiche sur l'écran, que vous avez déjà depuis très longtemps téléchargé sur le site de l'ACLA, sur ce site au programme, dans la catégorie programme, vous pouvez consulter votre programme et calendrier des cours, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer, enfin vous le connaissez de longue date maintenant, et vérifiez bien que ça correspond à celui que vous avez, parce qu'il y a toujours des petites modifications que j'apporte au cours de l'été. Alors ce programme propose 8 chapitres selon une trame à la fois diachronique, c'est-à-dire évolution des faits culturels dans le temps, et synchronique, c'est même fait culturel considéré dans un même temps. Bon. Et les titres des chapitres évoquent des moments de l'histoire du climat. Ça ne vous a pas échappé, une explosion culturelle à l'âge glaciaire. Réchauffement, le climat souffle sur l'histoire, ce qui est une occasion de rappeler que j'emprunte ce titre à Pascal Accot dans son Histoire du climat. L'Empire romain, période froide et humide, à partir du 5e siècle, période de réchauffement culminante au 13e siècle. Le temps des famines et des épidémies, 1550-1850, un petit âge glaciaire, mauvais temps sur le roi soleil, que j'emprunte là aussi à Pascal Accot. Tempête sur le XXe siècle, famine en URSS, en Chine, au Bengale, et blizzard noir sur le Dust Bowl. Et de nos jours, enfin, c'est le 8e chapitre, le dérèglement climatique. Alors se pose la question d'un déterminisme climatique, c'est-à-dire Est-ce qu'un changement climatique peut expliquer la naissance ou la disparition d'une civilisation et, en ce qui nous concerne, une manifestation culturelle et artistique? Ou bien un événement historique? Est-ce que le climat détermine un événement historique? La défaite inattendue de Philippe VI de Valois à la bataille de Crécy en 1346 serait due aux orages qui auraient détendu les cordes des arbalètes françaises. Et c'est comme ça qu'on a perdu. La retraite de Russie ne serait pas imputable à l'imprévision de Napoléon Ier, mais au terrible hiver russe. L'équipe de France a perdu face à l'Angleterre à Twickenham à cause de la pluie. Bon, en d'autres termes, nos généraux sont compétents et c'est toujours de la faute du climat. Le climat ne nous est pas favorable. Alors vous voyez que ça ne tient pas tout ça et qu'il faudra être extrêmement prudent quant à un prétendu déterminisme climatique. Et alors à ce propos, on va constater plusieurs choses qui me semblent importantes. Une modification climatique a entraîné un important changement de l'environnement dans l'Est africain à la fin de l'ère tertiaire. Et là, on a vu le couvert forestier de la région faire place à la savane, contraignant du même coup une population d'hominidés, telle la célèbre Lucie, à lentement abandonner le mode de vie arboricole et à adopter un comportement bipède afin de voir par-dessus les hautes herbes, libérant les membres antérieurs des individus de cette population. Quel beau récit, mais ça n'est qu'un récit. Au fil des millénaires, le développement consécutif des interrelations main-cerveau-outil aurait contribué à l'origine de l'espèce humaine, à l'apparition d'Homo habilis, donc l'être humain, l'être humain capable, apte, habile, homo habilis, à se servir de ses mains et à qui l'on doit les premiers outils avérés. Alors est-ce que tout cela est dû à un changement de l'environnement dans l'Est africain à la fin de l'ère tertiaire? Rien n'est moins sûr quand même. Les hominidés, c'est-à-dire les premiers membres de la lignée humaine postérieure à la divergence entre chimpanzés et hommes, sont apparus en Afrique il y a 7 millions d'années. Les plus anciens spécimens d'Homo ont 2,8 millions d'années. Puis, ils quittent l'Afrique. Ils quittent l'Afrique et le scénario scientifique actuel propose une première diffusion du genre Homo entre 2 millions et 1,8 millions d'années. Et des fossiles d'Homo ou des outillages ont été en effet découverts en Chine, datant de 2 millions d'années, en Géorgie, 1,8 millions d'années, en Israël, 1,7 millions d'années, au Pakistan, 1,5 millions d'années, ce que retrace la carte que vous avez sous les yeux. Donc cette migration, cette diffusion du genre Homo est incontestable, elle est prouvée scientifiquement, si vous voulez, grâce aux découvertes archéologiques et grâce aux études anthropologiques. L'Homo sapiens apparaît quant à lui au plus tard vers 200 000 avant notre ère en Afrique. Or, il migre sur l'ensemble des terres émergées, s'adaptant au changement du climat, s'enrichissant au fil de ses migrations. Et surtout, cet Homo sapiens va remplacer toutes les autres espèces. Cette substitution, qui n'exclut pas nombre de métissages, et notamment avec l'homme de Néandertal, est décisive pour l'unité biologique de l'humanité actuelle. Elle est au cœur de débats scientifiques contemporains qui sont extrêmement complexes, on s'en doute. Quoi qu'il en soit, les échanges génétiques ont été permanents et se sont combinés aux migrations. Alors justement, concentrons-nous sur cet homme moderne, donc l'Homo sapiens. On sait aujourd'hui que l'ensemble du continent africain était peuplé par Homo sapiens il y a 110 000 ans environ. L'ensemble, du continent africain, bien que les populations ont probablement fluctué en fonction du climat. L'aridité croissante de l'Afrique à cette époque a dû rendre inhospitalière une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord, si bien que l'extension du désert du Sahara a dû pousser les populations en direction des prairies tempérées du Moyen-Orient. Et la répartition mondiale de l'homme moderne peut s'expliquer par plusieurs vagues migratoires de petits groupes d'homo sapiens partis d'Afrique. C'est sans doute consécutif à ce changement donc de l'environnement en Afrique, changement qui est imputable au climat, vraisemblablement, quoi qu'il en soit. Là aussi, il y a une diffusion, il y a une migration, des vagues migratoires de petits groupes d'homo sapiens, partis d'Afrique et des régions adjacentes à partir de 100 000, hein, il y a 100 000 ans de ça environ. Les variations climatiques, c'est-à-dire l'alternance de périodes froides et arides et de périodes chaudes et humides, ont conditionné l'apparition ou la disparition d'environnements habitables. Lorsque ces conditions étaient favorables, les humains se sont répandus vers l'Est. Des zones facilitant les transits à certaines époques, comme le fleuve Indus ou le désert de Thar, c'est dans l'état du Rajasthan, le désert de Thar, hein, dans le nord-ouest de l'Inde et au Pakistan. À certaines époques, ces zones sont devenues des obstacles. Donc à d'autres moments, c'était des obstacles. À certains moments, on pouvait les franchir, à d'autres, on ne le pouvait plus. Et ça, ça a déterminé la direction et la durée des migrations à grande échelle. De vastes zones de l'Ancien Monde, Afro-Eurasie, de vastes zones ont été peuplées il y a 60 000 ans. Et on ne connaît pas très bien les routes suivies par ces premiers pionniers, on s'en doute. La côte était sans doute une des routes privilégiées. La côte était riche en ressources nutritives. Elle a peut-être été la route privilégiée de ces humains. Et remarquez que le développement cérébral a pu peut-être bénéficier de l'apport des acides gras contenus dans les fruits de mer, au cours de ces migrations, au cours de ces déplacements de populations d'homo sapiens à l'époque que je viens de présenter, c'est-à-dire à partir du moment où ils quittent l'Afrique. Alors oui, tout cela est bien connu maintenant, ce sont des choses qui sont bien prouvées. Il y a 110 000 à 90 000 ans, les humains ont commencé à emprunter la vallée du Nil et à enterrer leurs morts dans les grottes du mont Carmel et de la basse Galilée en Israël. On a les traces, et on a pu dater ces traces. Les humains modernes se sont propagés jusque en Inde et en Chine, il y a 50 000 ans, peut-être plus tôt encore, hein, ce que suggère d'ailleurs la carte qui s'affiche de nouveau sur votre écran. Mais le faible nombre de fossiles trouvés dans ces pays empêche de bien comprendre comment. Et c'est toujours dommage, hein, quand dans ces régions, une situation, disons, politique actuelle empêche des fouilles archéologiques, des recherches. Ça ne nous permet pas, finalement, de bien comprendre nos origines, et c'est bien dommage. Même pendant les périodes où le niveau de la mer était le plus bas, c'est-à-dire période de glaciation, atteindre les terres du Sahul. Le Sahul, c'est ce qui correspond aujourd'hui à l'Australie, à la Nouvelle-Guinée et à la Tasmanie. Atteindre ces terres a nécessité de traverser la mer sur 20 à 30 kilomètres, alors que c'était une époque où les eaux étaient très basses. Mais il a fallu quand même traverser la mer sur 20 à 30 kilomètres sur des embarcations rudimentaires, et les restes humains qu'on a pu trouver indiquent que cette migration a eu lieu il y a 50 000 ans. Imaginez quand même ce qu'est déjà l'homme moderne, donc l'homo sapiens, il y a 50 000 ans, capable de fabriquer des embarcations, de se guider sur un bras de mer de 20 à 30 kilomètres, il y a 50 000 ans. Formidable. Les crayons d'ocre rouge et les traces d'art rupestre datant de cette époque, il y a 50 000 ans, donc, révèle une culture aborigène en Australie. La culture aborigène est attestée depuis 50 000 ans. Et c'est seulement au cours des derniers millénaires que les humains se sont répandus dans les dernières régions habitables, c'est-à-dire les îles du Pacifique, où des explorateurs comme James Cook ont rencontré leurs descendants très, très, très éloignés. Alors, par exemple, il y a de cela 15 à 17 000 ans, c'est à Monteverde au Chili, c'est entouré sur la carte ici, là, des structures d'abris contenant des outils en pierre et des plantes médicinales attestent bien la présence de groupes de chasseurs-cueilleurs, en Amérique du Sud. Il y a moins de 1000 ans, donc c'est-à-dire il y a 4000 ans, présence humaine sur les îles Fidji et Tonga, ayant nécessité des compétences en navigation. Je l'ai entouré aussi sur la carte. Et là, on ne sait pas. Donc, il y a 3000 ans de cela, peut-être, une première présence humaine à Tahiti. Voilà, je vais rester là-dessus. À Tahiti, donc à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et peut-être sur l'île de Pâques. Ce que j'ai aussi, je crois, voilà, c'est entouré sur la carte. Donc voilà pour ces migrations. Et si on revient à cette expansion qui se double d'une culture qui est déjà intense, alors on peut dire que c'est avec cet homme moderne qu'une véritable relation à l'art va se développer. Non seulement avec l'art rupestre, mais aussi avec la fabrication de petits objets, de bijoux, d'instruments de musique. Alors, faut être très prudent, parce que ce qui nous reste est peu de choses. Hein. Les preuves qui nous sont parvenues ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, puisque les chants, les danses, les coiffures, les tatouages, les scarifications et les peintures corporelles nous restent complètement inconnus pour une époque qui est très lointaine dans le temps. Et tout cela fait partie de la culture, tout cela fait partie de l'expression artistique, et nous, ce que nous avons gardé aujourd'hui, c'est ce que je disais, l'art rupestre, quelques objets, quelques bijoux, quelques traces d'instruments de musique, mais enfin c'est vraiment c'est très peu de choses. Pourquoi ? Parce que finalement, tout ce qui a été fabriqué avec des matériaux périssables, comme le bois, l'écorce, les fibres ou les plumes, tout cela, ça n'est pas resté bien entendu. Donc là aussi on est très loin du compte pour la compréhension et la perception surtout de ces populations. Alors quoi qu'il en soit, les études sur l'art de la dernière période glaciaire sont riches. Peinture sur les roches et les parois des grottes, à quoi s'ajoutent des milliers d'images retrouvées sur des pierres, des os, des bois d'animaux et des morceaux d'ivoire. Là, vous avez la gravure d'une tête humaine découverte dans la grotte de la Marche, à Lussac-les-Châteaux. C'est une dalle de calcaire, hein, c'est extrêmement précieux. Et ces petits objets qui ont été mis au jour dans des strates sédimentaires qui sont parfaitement datables ont permis d'étudier l'évolution des techniques et des styles de cette période qui s'étend entre moins 40 000 ans et moins 11 000 ans. Et c'est ainsi qu'on a pu comprendre qu'il s'était produit une explosion culturelle à l'ère glaciaire. L'ère glaciaire correspond à une explosion culturelle, un âge a priori plutôt hostile à l'homme, parce que les glaces recouvrent une bonne partie finalement des terres, mais ça correspond cependant à une extraordinaire explosion culturelle. Alors comme quoi il faut nuancer tout déterminisme climatique. Là-dessus, et c'est toujours une façon de parler du climat et la relation qui peut exister entre la civilisation, la naissance d'une civilisation ou sa disparition, d'une culture et son rapport au climat. Alors après cette période glaciaire se produit un réchauffement du climat. C'est ce qui distingue, pour faire simple, donc le paléolithique du néolithique. Le pastoralisme, la domestication animale, l'agriculture s'intensifie. Alors, il y a plusieurs périodes. L'Holocène, qui débute il y a 10 000 ans à la suite du dernier glaciaire. L'Holocène représente une mutation profonde des sociétés qui amorce désormais une nette croissance démographique avec la domestication d'animaux et ou de plantes. Donc les animaux, les plantes, pour certains, sont domestiqués. Et ça correspond aussi à la sédentarisation. Dès moins 9000 ans, une période humide transforme le désert du Sahara en paysage verdoyant parsemé de lacs. Et cette peinture que vous avez à gauche, peinture rupestre de la région d'Aïn Duha, située dans le massif montagneux du Djebel ou Wenat, dans le Sahara oriental, aujourd'hui c'est la Libye, montre des bovins et des hommes. C'est-à-dire que la vie s'est développée dans le désert que nous connaissons aujourd'hui, donc à deux périodes. Il y a eu deux périodes humides, la première entre moins 10 000 ans et moins 6 000 ans, et la seconde période humide entre moins 5 000 et moins 3 000, et bien sûr ça a favorisé ce que je viens de présenter, le pastoralisme notamment, entre autres choses. Alors, oui, il y a 12 000 ans de ça, un climat humide se mettait en place sur le Sahara, qui se couvre de savanes et même de forêts, dans les montagnes et les vallées. Et dans ce milieu favorable à la chasse, puis à l'élevage, se développe une culture originale de chasseurs, puis de pasteurs et de sédentaires, dont témoignent les nombreuses peintures et gravures rupestres, telles celles que vous découvrez ici sur l'écran. Entre 4500 et 2000 ans avant notre ère, des bovins sont élevés en plein Sahara. Mais bien sûr, l'aridité progresse, et vers moins 2500 ans, les populations se réfugient dans des zones plus humides, Sahel, Niger et Nil, lac Tchad, donc ce sont les régions les plus humides, là effectivement on va retrouver des populations. Si bien que, au premier millénaire de notre ère, de grands nomades libico-berbères circulaient déjà d'est en ouest dans le désert après la domestication du dromadaire en Arabie. Donc voilà effectivement un schéma intéressant parce que on peut le mettre en relation avec une évolution du climat et puis des manifestations culturelles, des manifestations qui sont de proprement artistiques. Alors restons à cette période de réchauffement. L'optimum chaud du néolithique, à partir de moins 6000 ans, a permis la naissance et le développement de l'agriculture dans la zone qui s'étendait du sud de la Palestine à la Mésopotamie et que les historiens ont baptisé le croissant fertile. Et sur cette carte, on voit très bien se dessiner ce croissant fertile. C'est dans cet espace et dans les plateaux anatoliens proches que sont domestiqués les ancêtres du blé en grain amidonier, de l'orge et du seigle, du lin, des pois et des lentilles, mais sont domestiqués aussi le bœuf, le porc, la chèvre, le mouton, l'âne, le chat. Quoique pour le chat, on se demande toujours si ça n'est pas plutôt le chat qui nous a domestiqués. Quoi qu'il en soit, milieu ouvert, où la circulation est aisée, ce croissant fertile est également un carrefour à l'échelle eurasiatique. Littoraux méditerranéens, mer Rouge, golfe arabo-persique, cuvette iranienne, steppe d'Asie centrale, vallée du Nil, autant d'espaces qui permettent les convergences vers l'Asie occidentale, ce qui favorise la diffusion des innovations culturelles, comme par exemple l'écriture. L'écriture est née ici, elle s'est diffusée grâce à ces donc à cette circulation que je viens d'évoquer. Alors dans l'idée de relativiser nos connaissances et de tempérer tout déterminisme, hein, ça c'est un mal qui est bien attaché à notre culture, hein, et qui vient peut-être de Hegel. Quoi qu'il en soit, pour relativiser nos connaissances, pour tempérer tout déterminisme, ajoutons que l'agriculture a permis de nourrir plus de personnes sur une zone donnée, soit, mais elle nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre que la cueillette, si bien que les toutes premières cultures ont fourni un régime moins varié et moins sain que la cueillette. Et ça, ça a été prouvé par les paléo-anthropologues. Les premiers agriculteurs étaient plus petits que les chasseurs-cueilleurs de leur époque parce qu'ils souffraient de caries, de carences, et les caries dentaires ont permis effectivement de le constater. Plus tard, à mesure que la densité de la population a augmenté, les maladies endémiques se sont également développées. Si bien qu'on est en droit de se demander pourquoi alors l'agriculture a-t-elle été inventée, puisque d'abord dans un premier temps, c'était mieux avant, c'était mieux à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Bon, laissons cette question en suspens, c'est juste pour relativiser tout ce que l'on croit savoir, de tempérer tout déterminisme. Les choses ne sont jamais simples, on s'en doute, surtout quand on n'a pas toutes les connaissances qu'il faut, donc quand on n'a pas tous les éléments pour comprendre ces questions qui sont difficiles. Dernier constat, toujours en guise d'exemple, c'est un autre exemple que je donne à propos du climat et de son incidence sur la vie de l'homme, puisque notre programme est ainsi rythmé par des temps climatiques, des moments climatiques. Et ici, donc, l'exemple concerne l'extension remarquable des surfaces cultivées dans l'Europe tempérée du XIIIe siècle. Or, cette extension des surfaces cultivées dans l'Europe du XIIIe siècle n'aurait pu survenir sans la longue période clémente amorcée vers l'an 900. Le climat est agréable au cours de cette période, de l'an 900 jusqu'au XIIIe siècle. Conséquence. Au temps des cathédrales, les besoins de l'Occident en croissance démographique, on passe de 60 millions à 80 millions d'habitants. Les besoins de l'Occident augmentent, surtout les besoins des classes aisées. Et c'est ainsi que, si on devait dresser le paysage de l'Europe au XIIIe siècle, sur un plan économique, mais c'est révélateur, l'économie guide le monde. Bon, alors on constate que de grandes régions céréalières et viticoles destinées à des marchés lointains s'étendent le long des axes majeurs. Les échanges internes à l'Europe et ceux empruntant les routes de l'Ancien Monde, surtout avec le monde musulman via la Méditerranée, sont en plein essor. L'Italie du Nord, l'Italie du Nord et l'Italie médiane connaissent un développement économique considérable. La mer du Nord devient également une région économique majeure. Entre les deux, la liaison nord-sud est polarisée par les foires de champagne. Les nœuds des réseaux deviennent des places financières et des centres d'artisanat complexes. Bref, au cours de la période historique, le couplage du climat et de l'histoire de l'humanité devient patent. Concluons sur cette question du climat, puisque effectivement on a eu ici quelques exemples. Les variations climatiques ne déterminent pas les événements proprement historique. Ça, on le comprendra aisément, ça n'est pas par le climat qu'on va expliquer une date. Ça se comprend. Mais ces variations climatiques jouent un rôle déterminant concernant justement les civilisations et la direction qu'elles peuvent prendre, et donc la culture qui va avec ces civilisations. Alors laissons la question climatique et ses incidences sur les civilisations en suspens. Voyons la production artistique considérée à un même moment partout dans le monde. Donc là, je passe à autre chose et j'essaye d'expliquer le principe de notre programme. Alors justement, au temps de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été construite ou reconstruite, c'est une reconstruction bien sûr, pour simplifier, fin du XIIe et début du XIIIe siècle. Et si on se limite au thème des sanctuaires, posons cette question, qu'y avait-il au temps de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'y avait-il de prégnant en Afrique? Pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Parce que sa culture est particulièrement saillante à ce moment de son histoire. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une coïncidence. L'Europe, telle que vous l'avez sur la carte, sur la projection, l'Europe des marchands au XIIIe siècle, comme l'Afrique, sont à des moments saillants de leur histoire. Alors, ce qui permettra aussitôt de préciser qu'il ne s'agira jamais de comparer. Il ne s'agit pas de comparer dans ce programme, hein. Il s'agit de constater, c'est pas tout à fait pareil, constater la richesse et la diversité artistique dans le monde à un moment donné. Donc c'est ce que l'on peut faire en voyant ce qu'a été la culture en Europe et ce qu'a été la culture en Afrique en même moment. On constate la richesse, hein. Il ne s'agit pas de comparer et encore moins de juger ce qui ne se compare pas finalement. Hein. Donc ce n'est pas le but de ce programme. Alors finalement, voyez que ce n'est pas un programme difficile. C'est plus cette année un programme d'initiation à l'histoire universelle de l'art. Il s'agit de montrer la création artistique telle qu'elle était à un moment donné de l'histoire dans le monde. Alors développons là cet exemple. Hein. Donc pour l'Europe, on s'en tient à ce que j'ai dit, l'Europe du XIIIe siècle, Notre-Dame de Paris, très belle construction qui est emblématique de l'époque, qui est riche à tout point de vue. Bon, je n'insiste pas. Voyons l'Afrique au même moment. La désertification du Sahara que j'ai évoquée précédemment. La désertification du Sahara fait diverger les histoires des sociétés africaines, hein, on le comprendra aisément. Du IVe au VIIe siècle de notre ère, l'introduction du dromadaire, comme je le disais tout à l'heure, rend possible les traversées transsahariennes. À partir du VIIIe siècle, les sociétés au sud du Grand Désert se connectent progressivement aux échanges mondiaux. Le long des côtes orientales, c'est-à-dire ici, l'importance croissante de la circulation commerciale dans l'océan Indien, facilitée par l'alternance régulière des vents de mousson, suscite le développement de cités portuaires, ce dont témoigne l'expansion de la langue swahili. Et nous sommes, il y a de ça 1000 à 1500 ans quand même, hein. Les régions d'abondantes ressources en eau. Je l'évoquais tout à l'heure, le lac Tchad, par exemple, et la boucle du Niger abritent les centres de construction géopolitique liés aux échanges. Les échanges, c'est quoi? C'est de l'or et des esclaves contre le sel et les produits artisanaux qui viennent du nord, septentrionaux. Alors, ainsi, l'Afrique occidentale est successivement dominée par le Ghana à partir du 8e siècle de notre ère, puis au milieu du 13e siècle, c'est l'empire Mali, fondé par Soundiata Keita, qui l'emporte. Alors, vous avez tout ça hein, donc sur la carte, le Ghana qui est signalé ici, ça c'est à partir du 8e siècle, puis au milieu du 13e siècle, c'est l'empire du Mali qui est signalé juste à côté. Au 15e et 16e siècle, Le Songhai. Le Songhai est aussi signalé sur la carte, c'est-à-dire ici précisément. Le Songhai va prospérer à son tour du haut Sénégal jusqu'au Bas-Niger. À partir du Xe siècle, le royaume de Kanem-Bornou, que vous avez signalé au centre de l'Afrique, sur la carte, domine les régions riveraines du lac Tchad. On se transporte sur la côte orientale, et là on constate que les ports de la côte orientale fonctionnent comme des cités-états qui ont été extrêmement puissantes. Et alors plus au sud, une région de construction géopolitique ancienne voit se développer un royaume du XIIIe au XVIe siècle, c'est le Zimbabwe. C'est un royaume qu'on a appelé Mono-Motapa, enfin les Européens appelaient ce royaume Mono-Motapa, c'est en fait le Zimbabwe, XIIIe, XVIe siècle, c'est un royaume, c'est signalé bien sûr ici sur la carte, plus au sud donc, et là effectivement on constate que les exportations d'or intègrent aux échanges lointains, donc tous ces royaumes, toutes ces cités-États qui se constituent. En Afrique australe, on comptait comme cela des États extrêmement importants. Par exemple, Mapungubwe, ça a été, je l'entoure aussitôt, ça a été effectivement un empire finalement, ça a été un empire qui a duré de 1100 à 1450, de notre ère et dont les ruines témoignent donc de choses tout à fait formidables. Et c'est à côté de Mapungubwe, le grand Zimbabwe que j'entoure là aussi aussitôt. Voilà, donc là vous avez deux États importants, si vous voulez les qualifier de royaumes. Oui, on peut les qualifier de royaumes, ou alors de petits empires, enfin, vraiment des choses qui comptent dans l'histoire, et pour être effectivement le plus large possible, entre 1100 et 1450. Mapungubwe, c'est plus 1220-1290, c'est surtout le XIIIe siècle, donc le temps de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui vraiment donc domine. Là, donc les fouilles d'un cimetière à Mapungubwe ont fourni des preuves d'orfèvrerie ancienne. Et le Grand Zimbabwe, c'est plus large, 1100-1450. Là, les ruines, effectivement, sont vraiment très très impressionnantes. Ça suggère des structures sociétales qui sont complexes et qui restent d'ailleurs largement inconnues. Je peux vous donner une petite image, quand même, de ce Grand Zimbabwe, 11e-15e. Dans le récit occidental, notre récit à nous, on prétend que l'architecture monumentale est une caractéristique du développement des grandes civilisations. C'est sans doute très vrai, mais dans le récit occidental, on s'est attaché à des édifices comme, je ne sais pas, le Panthéon de Rome, ou donc les pyramides d'Égypte, ou Sainte-Sophie de Constantinople. Bon, l'architecture monumentale est une caractéristique du développement des grandes civilisations. Oui, mais dans ce récit occidental, on a eu tendance à exclure l'architecture monumentale d'Afrique, au profit des temples grecs, de l'architecture impériale romaine, que sais-je. Bon. Mais si on accepte cette idée, qui est sans doute très vraie, l'architecture monumentale est une caractéristique du développement des grandes civilisations, dans ce cas, il ne fait aucun doute que l'histoire de l'Afrique est faite de grandes civilisations. D'autant plus que, outre le Grand Zimbabwe, vous avez d'autres structures impressionnantes qui existaient par ailleurs. Alors, l'île de Kilwa-Kisiwani, ça c'est près de la Tanzanie, abritait la cité-état médiévale la plus importante d'Afrique de l'Est. Alors ce sont des puissances, et la richesse de Kilwa-Kisiwani est attestée par le fait qu'elle émettait sa propre monnaie entre le XIe et le XIVe siècle, une pièce portant le sceau du sultanat de Kilwa a été trouvé au Grand Zimbabwe. Donc, ce qui veut dire aussi que toutes ces structures sociétales, toutes ces cités, tous ces États, finalement, qui étaient puissants, étaient en relation, et ce qui les mettait en relation, comme aujourd'hui, c'est l'économie, c'est le commerce, évidemment. Les ruines de Kilwa-Kisiwani, endommagées par les végétations envahissantes et l'érosion côtière, ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en 2004. Après un programme de restauration, le site a été proprement retiré de la liste en 2014. Pourquoi ? Parce que la restauration a aidé à faire la promotion de l'île en tant que destination touristique. Ça, c'est inacceptable pour l'UNESCO, à juste titre. Et donc, c'est toujours une chose à rappeler. L'UNESCO inscrit sur sa liste des monuments, des sites, un patrimoine mondial, mais peut retirer de sa liste ce patrimoine-là. Alors, toujours pour parler de la richesse de ces cultures, de ces civilisations africaines, à l'époque où à Paris on construisait et on inaugurait la cathédrale Notre-Dame, autre exemple, le royaume du Bénin. Vers 1200, ce royaume du Bénin est connu pour ses œuvres d'art en bronze, qui sont magnifiques, telle cette tête que vous découvrez. Un bronze moulé qui représente probablement une reine-mère nommée Idia. Les sculptures en bronze du Bénin étaient réalisées grâce à la technique du moulage à la cire perdue. Et là, ça vous donne un panorama des cultures africaines, des civilisations, des états, des royaumes, des empires, du temps de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, il resterait, bien sûr, l'exemple le plus frappant et le plus proche aussi, peut-être, du sanctuaire qu'est Notre-Dame de Paris, par un détour toutefois. C'est la petite ville de Lalibela. Lalibela est connue pour ses 11 églises médiévales sculptées dans la roche volcanique des montagnes de Lasta, dans le nord de l'Éthiopie. Nous sommes en Éthiopie. Elle doit son nom à Lalibela. Lalibela règne de 1181 à 1221. Ça ne s'invente pas. C'était vraiment à cette époque-là que l'on construisait Notre-Dame, reconstruisait Notre-Dame de Paris. Et c'est un roi. Lalibela, c'est un roi de la dynastie Zagwe d'Éthiopie qui a régné de 1181 à 1221, 40 ans quand même. Alors pendant son règne, Saladin, le fameux Saladin, le sultan d'Égypte, avait conquis la Palestine et la ville sainte de Jérusalem. Donc ce qui ne permettait plus aux chrétiens d'Éthiopie de se rendre facilement à Jérusalem. Et la tradition veut que le roi Lalibela, et fait construire ces églises qui sont excavées, qui sont sculptées, comme je le disais, dans la roche des montagnes de Lasta dans le nord de l'Éthiopie. Ça lui donnait cette idée de fonder sur ses propres terres, donc à Lalibela, une nouvelle Jérusalem. Donc voilà ce qu'est Lalibela au XIIIe siècle. C'est une nouvelle Jérusalem pour les pèlerins et les fidèles. Et il existe des centaines d'églises taillées dans la roche en Éthiopie. Lalibela, c'est le site le plus important d'un point de vue architectural et historique. Considérez l'église qui est à droite, elle est aussi excavée, donc sculptée, taillée dans la roche. C'est Bété Medan Alem, la maison du sauveur du monde. Elle est probablement la plus grande église de ce type au monde. C'est plus impressionnant que l'église de Saint-Émilion, par exemple, ou de Aubeterre-sur-Drône. Et alors aujourd'hui, elle est encore considérée comme un lieu sacré, au cœur de la vie spirituelle des chrétiens orthodoxes d'Éthiopie, ce qui est toujours une occasion de rappeler que l'Éthiopie, c'est le deuxième État au monde à faire du christianisme sa religion d'État. Avant Rome, après l'Arménie, mais avant Rome, c'est l'Éthiopie qui adopte le christianisme comme étant la religion d'État. L'Éthiopie est chrétienne. Et autre exemple qui est toujours important, surtout au regard de notre actualité, brûlante là, donc à signaler, c'est Tombouctou. Le commerce dans le désert du Sahara a probablement commencé au début du premier millénaire, mais il s'est développé avec l'utilisation du dromadaire, du chameau, comme animal de bât, on l'a dit. Florissant du 7e au 11e siècle, le commerce transsaharien était centré sur l'or, qui était échangé contre du sel provenant d'Afrique du Nord. Il a contribué à la diffusion de l'islam en Afrique au cours du deuxième millénaire, notre deuxième millénaire à nous. Tombouctou, qui se trouve au Mali actuel, était l'un des nombreux centres du commerce transsaharien, stratégiquement situé au bord du désert, près du fleuve Niger. Le site a commencé à être occupé au milieu du premier millénaire de notre ère. Et dans les années 1500, c'est-à-dire au moment où il y avait la Renaissance donc en Europe, c'était un centre important de commerce, de culture et d'éducation islamique. Et à cette époque, la ville comptait 100 000 habitants. Imaginez quand même, 1500 Tombouctou qui étaient occupés, enfin qui étaient habités par 100 000 habitants, c'est beaucoup, hein, c'est-à-dire ça rivalise avec les grandes villes européennes au même moment. En 2012, vous le savez, Tombouctou a fait les gros titres lorsque des fondamentalistes religieux ont détruit de nombreux bâtiments anciens, notamment 14 de ces 16 mausolées, dont certains datés du XIIIe siècle, on pourrait ajouter heureusement restaurés depuis. Mais voilà que le putsch militaire de mai de cette année, 2021, depuis ce putsch, tout est remis en question. Comme en Afghanistan. Tout est remis en question. Bon, la situation est extrêmement préoccupante sur le plan de la conservation culturelle et artistique. Déjà que on n'en sait pas beaucoup hein, sur ces cultures et ces civilisations d'Afrique parce qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts pour bien les connaître. Hein. Alors si on voit effectivement disparaître ces traces, il restera quoi ? Plus d'un demi-million de manuscrits en arabe et en langue africaine locale datant du XIIIe siècle, à l'époque coloniale, était conservée à Tombouctou. Imaginez quand même, un demi-million de manuscrits en arabe et en langue africaine locale, c'est une bibliothèque énorme, considérable. Hein. Et ça, c'était voilà, au XIIIe siècle qu'on avait fabriqué ces manuscrits, XIIIe siècle. Hein. Et jusqu'à récemment, la plupart étaient répartis dans des bibliothèques privées. Pour éviter qu'ils se détériorent et soient la cible des fondamentalistes, des milliers de manuscrits ont depuis été exportés à des fins de conservation et surtout de numérisation pour les rendre accessibles, pour que ce savoir, cette connaissance se diffuse. Tout est question de transmission, d'héritage, hein, quand on parle effectivement du devenir d'une culture ou carrément d'une civilisation. Voilà. Voilà pour vous donner une idée du principe des cours. Quand on construisait Notre-Dame à Paris, il faut savoir que, dans le même temps, en Afrique, voyaient le jour de puissantes structures architecturales révélatrices de l'existence de grandes civilisations. Ça, c'est le principe du cours, rythmé par des temps climatiques, en quelque sorte. Là-dessus, ce que je vous propose, c'est de passer en revue très succinctement les titres du programme. Hein. Donc, comme ça, ça vous donnera une idée, je l'espère, assez précise hein, du programme. L'art de la période aurignacienne ne se limite pas au Périgord ou à l'Ardèche, il y a 30 000 ans, et sans doute dès avant, les Sanes d'Afrique du Sud et les aborigènes d'Australie laissaient des peintures et des gravures sur les parois des abris sous roches. Or, curieusement, une des images les plus rencontrées à cette époque hésite entre l'animal et l'humain. Plus précisément, l'image combine plusieurs parties de différents animaux et de l'humain. C'est ce qu'on appelle le thérianthrope, un mot incontournable pour désigner une représentation majeure en histoire de l'art, hier comme aujourd'hui. Si bien qu'à l'origine de l'art s'impose déjà un grand thème d'actualité, c'est le thème de l'hybridité et de la métamorphose. C'est peu dire que ce thème de l'hybridité et de la métamorphose est un thème d'actualité, un thème qui traverse toute l'histoire de l'art jusqu'à aujourd'hui. Et on pourra s'interroger sur le sens de cette image, hein, du thérianthrope. Un chaman en état de transe, un déguisement de sorcier, etc. On ne sait pas. Enfin, on pourra toujours s'interroger, et quoi qu'il en soit, on relèvera d'emblée que ceux que l'on appelle aborigènes sont toujours présents aujourd'hui en Afrique du Sud comme en Australie et sont toujours attachés à préserver leur culture. Autre représentation significative des débuts de l'art est rencontrée partout dans le monde, à l'époque préhistorique, en Ardèche, comme en Patagonie. Les empreintes de mains positives ou négatives. À Chauvet-Pont-d'Arc, elles sont particulièrement intéressantes car elles se combinent avec des gros points rouges faits avec la paume de la main, hein, donnant lieu à des panneaux de points-mains, pour reprendre la formule proposée par Jean-Clotte. À cela s'ajoute quantité d'autres signes pour lesquels il est impossible d'en donner le sens. Hein. Mais l'extrême soin apporté à ces représentations nous invite à nous questionner. Le signe n'est-il pas à la racine de l'écriture? Autre chapitre, réchauffement, le climat souffle sur l'histoire. Alors, pour l'époque néolithique, les archéologues distinguent le mésolithique, pour parler de l'époque et de la culture des sociétés du nord de l'Europe, l'épipaléolithique pour le sud de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'archaïque pour les Amériques, ou dans les Amériques. Bon. Et tous ces termes renvoient aux chasseurs-cueilleurs de l'ère post-glaciaire. En passant de la chasse et de la cueillette à l'agriculture, ces sociétés se sont transformées socialement. Sentiment de propriété, lien de parenté renforcé. Elles se sont transformées technologiquement. Capacité de stocker et de conserver les aliments, entre autres choses. Bon. Partout dans le monde, la néolithisation a favorisé l'éclosion de sociétés organisées et hiérarchisées et par conséquent plus inégalitaires qu'elles ne l'étaient du temps de la chasse et de la cueillette. Au croissant fertile que j'évoquais plus haut, naissent les premières cités, comme en Chine, et Moutou par exemple, hein, dans la province du Zhejiang, c'est une cité extrêmement ancienne que l'on peut effectivement mettre en que l'on peut présenter au même titre que les cités de Mésopotamie. Dans ce chapitre, autre sujet qui permet de constater que des tombes royales monumentales voient le jour, ça c'est la conséquence de la modification des sociétés qui sont plus organisées mais surtout plus hiérarchisées. Des tombes royales voient le jour, révélant des sociétés qui sont effectivement très hiérarchisées. Le complexe pyramidal de Caral au Pérou, donc qui n'est pas proprement parlé une tombe, hein, donc la pyramide ou le complexe pyramidal de Caral se comparait davantage aux ziggourats de Mésopotamie. Enfin, ce complexe, il est remarquable par son ancienneté. Imaginez que ce complexe pyramidal de Caral au Pérou est aussi ancien, aussi vieux que les plus anciennes pyramides d'Égypte. Et c'est ainsi qu'à travers le monde, il y a 5000 ans de ça, s'est imposée une forme architecturale, la pyramide. Rappelons que les structures mentales des hommes sont les mêmes partout. Mais enfin, ceci explique cela. N'avons-nous pas tous une origine commune? Toujours dans ce chapitre, le bronze qui est un alliage de cuivre et d'étain, le bronze est devenu le principal métal industriel d'Europe entre moins 3000 et moins 2000. Quand je dis moins, c'est toujours avant notre ère. Hein, donc il y a 5000 ans, entre 5000 ans et 3000 ans, là, effectivement, le bronze est devenu le principal métal industriel d'Europe. Et ces deux métaux, cuivre et tin, qui en général ne se trouvent pas au même endroit dans la nature, hein, étaient extraits à leurs sources respectives, puis fondus et mélangés pour former l'alliage. Et ça, ça ne manque pas de révéler une organisation complexe des sociétés. Le bronze étant plus solide que la céramique, le bois, le silex ou l'os, on l'utilisait pour fabriquer des objets qui remplaçaient les anciens outils faits de ces matériaux plus fragiles que je viens d'évoquer. On créait aussi d'autres objets complètement nouveaux, comme des ornements et des armes en bronze. Hein. Et très tôt, de superbes œuvres d'art en bronze ont vu le jour, telle la fameuse danseuse nue de Moenro Daro. Hein, ça correspond à cette civilisation qui s'est épanouie dans la vallée de l'Indus, le Sindh, le Pakistan, et datée du 3e millénaire avant notre ère. Cette danseuse que vous découvrez sur l'écran, elle a 5000 ans. Elle est en bronze, hein. C'est quand même remarquable. Autre chapitre qui permettra simplement de dire que par tous les moyens, l'homme tente de conjurer la mort. Il aime à se projeter dans un au-delà. Et les sujets des peintures murales ou pariétales, déjà des fresques à ce propos, la vraie technique à fresco, manifestent fortement la vie ou une survie outre-tombe. Ainsi, partout, palais et tombeaux se couvrent d'images signifiant la vie à tout prix. Et alors celles-ci sont particulièrement riches dès le 2e millénaire avant notre ère. Ce sont les quelques exemples qui sont signalés dans l'intitulé du cours, que vous soyez en Crète, que vous soyez en Égypte, ce fameux tombeau de Nébamon est absolument formidable, que vous soyez au Pérou, au Guatemala. Donc ces peintures expriment la vie à tout prix. Alors changeons de chapitre. L'Empire romain, période froide et humide. Alors c'est le temps des empires. C'est le temps des empires. Entre les empires romains et chinois. Chinois, c'est la dynastie des Han. Entre ces empires romains et chinois, aux deux extrémités, occidentale et orientale de l'Eurasie, entre les deux, de puissants royaumes, ceux des Parthes et des Kouchans assurent le lien et entretiennent l'extraordinaire route de la soie. Cette situation profite à la création artistique, fortement marquée par le style gréco-romain. Bon, donc ça sera le thème du cours, dont l'intitulé est « De la Chine à Rome en l'an 200, un monde connecté pour le commerce ». Ajoutons que le refroidissement climatique a peut-être joué un rôle dans les crises agricoles de l'Empire romain. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, entre le tout début de notre ère et l'an 400, l'Empire romain connaît une période de refroidissement. À deux ou trois décennies près, cette période est celle qui sépare l'avènement d'Octave, qui prend le titre d'Auguste en l'an 27 avant notre ère, et le partage définitif de l'Empire en 395 de notre ère. Donc séparation entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Donc le début de la phase froide et humide coïnciderait avec le commencement de l'Empire et la fin du refroidissement avec son démantèlement et les prémices de son effondrement qui survient en 476, pour prendre une date, disons, officielle de la fin de l'Empire romain d'Occident. Et là, vous avez un exemple de déterminisme climatique à propos duquel il faut rester prudent, extrêmement prudent. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, on n'a pas de données météorologiques ou de récits historiques fiables susceptibles d'accréditer l'idée de crises agricoles profondes directement dues à la dégradation générale du climat. Mais ces crises ont eu lieu, elles ont eu lieu. La crise du IIIe siècle, 235-268 de notre ère, cette crise a des sources essentiellement politiques. Et on peut contester l'idée que ce serait le climat qui induirait les problèmes politiques. On peut contester cette idée. Elle est peut-être vraie. Dans certains cas, effectivement, un problème climatique peut engendrer un problème politique, et donc une crise. Mais on peut contester aussi cette idée. Dans tous les cas, les causes d'une crise durable sont multiples. C'était vrai hier, c'est toujours vrai aujourd'hui. On ne peut pas incriminer qu'un seul facteur, qui serait dans ce cas le climat. Parallèlement, on constate que de grandes villes auxquelles s'attachent des empires ou des royaumes tombent au même moment dans le courant du 5e siècle de notre ère. Rome tombe, Aksum tombe, Teotihuacan tombe. Ces villes sont très vite submergées par des populations dont le déplacement n'est pas étranger à des changements climatiques. Les Huns et les Goths pour l'Empire romain, les Chichimèques venus du nord et qui déferlent par vagues sur Teotihuacan. Teotihuacan, c'est au Mexique, ça a été une ville considérable, Teotihuacan. La disparition de cette dernière aura des conséquences importantes sur la civilisation maya. Et c'est vrai aussi pour Aksum, c'est une coïncidence. Ces trois villes, qui étaient des villes très importantes encore jusqu'au 5e siècle de notre ère, tombent, elles s'effondrent. Hein. Bon. Et parallèlement, ça c'est tout à fait frappant, le Pacifique connaît de grandes vagues de colonisation de ces îles. Hein. Hawaï, Marquise, Rapa Nui voilà, sont effectivement largement colonisés par des populations qui s'aventurent sur les eaux d'une façon sans doute très, très courageuse. Alors, autre chapitre, à partir du 5e siècle, période de réchauffement culminante au 13e siècle. Le réchauffement du climat va permettre une pénétration profonde de la Scandinavie et créer les conditions d'une occupation durable du sud du Groenland par les Vikings. Au 10e siècle, aidés par les courants, les Groenlandais parviennent en Amérique, plus précisément à Terre-Neuve, hein, dans le sud-ouest du Labrador, et en Nouvelle-Écosse, là, effectivement, ceux qui s'étaient installés au sud du Groenland, donc les Vikings, ces Groenlandais, parviennent en Amérique. Le site de l'Anse aux Meadows, à l'extrémité nord de Terre-Neuve, en est la preuve. C'est une preuve archéologique. Et en 2015, l'imagerie satellite a révélé l'existence possible d'un autre site viking qu'on appelle Pointe Rosée à l'extrémité sud de Terre-Neuve, c'est-à-dire à environ 483 km de l'Anse aux Meadows. 483 km de distance entre les deux, c'est considérable. Il y aurait là deux sites vikings, ce qui montre que cette occupation des vikings dès le Xe siècle en Amérique a dû être importante. Et ces découvertes par les vikings de l'Amérique au Xe siècle se font au moment de l'effondrement de la civilisation maya. Et ça sera l'occasion d'en exposer les causes. Pourquoi cette civilisation s'est-elle effondrée ? Conséquences de l'action des hommes sur leur environnement, déforestation massive, et donc il faut mettre cela bien sûr parallèlement à des périodes de grande sécheresse, c'est probablement ce qui a fait s'effondrer cette civilisation maya au Xe siècle. Alors, on reste attaché au Xe siècle, époque charnière, il me semble que c'est une époque charnière le Xe siècle, hein. Pour l'émergence de nouvelles civilisations, la civilisation médiévale chez nous, la civilisation maya-toltèque à Chichen Itza, au Yucatan, hein, qui deviendra cette cité remarquable, la civilisation khmer au Cambodge, la civilisation islamique au cœur de l'Asie centrale. Et en Amérique du Nord, où la cité de Cahokia était au Xe siècle une ville aussi importante que la ville de Londres au Xe siècle. C'est quand même assez formidable. En Europe, les rendements vont s'améliorant, les surfaces cultivées augmentent et la production s'accroît. Alors comment expliquer dans ces conditions la terrible famine de 1315-1317 en Europe? Ce n'est pas la première d'ailleurs, mais cette fois-ci, cette famine va toucher une population extrêmement importante. Elle anticipe sur les événements dramatiques qui vont toucher l'Europe tout au long du XIVe siècle. Une terrible famine de 1315 à 1317. Et donc cet événement, oui, fera suite finalement à cette époque de la cathédrale Notre-Dame de Paris que j'ai présenté tout à l'heure. Alors effectivement, le chapitre qui s'annonce, c'est celui des famines et des épidémies. Et il a fallu, semble-t-il, ou il a suffi, d'un printemps très humide, d'un été très pluvieux, en 1315, situation qui se répète en 1316 et en 1317. Et là, à partir de là, tout s'est déréglé. Il semble aussi que le climat général se détériorait depuis les années 1310. Hein. Donc un printemps très humide, un été très pluvieux en 1315, ça se répète en 1316, ça se répète en 1317. Les climatologues pensent que c'était dans ces années 1310, hein, que déjà donc il y avait un changement climatique. Et remarquez qu'à la fin de l'hiver 1317, ça a été épouvantable. Donc la fin de l'hiver 1317 est très effroyable. Des enfants sont abandonnés, sont livrés à eux-mêmes, et les chroniqueurs de l'époque rapportent même des cas de cannibalisme. Comme un malheur n'arrive jamais seul, à la famine s'ajoutent les maladies bronchopulmonaires, provoquant des millions de morts. On estime que 10 à 15% de la population totale disparaît en Europe à cause de ces maladies bronchopulmonaires à la suite de ces périodes de dérèglement climatique. Alors on le sait, le pire est à venir. Le pire, c'est une disette en 1332, une autre de 1335 à 1338, qui coïncide avec le début de la guerre de Cent Ans, 1337, enfin et surtout la peste noire qui ravage l'Europe de 1348 à 1350 et qui tue un habitant sur trois en Occident. Le caractère endémique de ces maux, famine, maladie, guerre, affectera l'Europe pour des siècles. L'Europe mettra des siècles à s'en remettre de cela. Et alors cependant, c'est bien la création artistique qui nous intéresse. Et celle-ci ne rend pas forcément compte de ses malheurs. Elle peut le faire. Elle peut le faire à travers notamment une iconographie comme la danse macabre, et je crois que au cours des années précédentes, on l'avait largement illustré. Mais il se produit parfois de forts contrastes esthétiques entre une réalité quotidienne et l'art du moment. Et c'est surtout frappant quand on aborde les portraits des reines et des rois. Et on remarquera la très grande diversité de ces représentations à travers le monde. La plus originale, c'est celle d'un souverain dogon hermaphrodite que je vous présenterai. Donc là, c'est un contraste esthétique avec la réalité, en fait. Contraste esthétique tout aussi frappant entre la peinture romane que nous connaissons, hein, c'est celle qui fait notre environnement, hein, bon, qu'on a pu présenter à l'occasion de telle ou telle sortie. Une peinture dont vous savez qu'elle relève de simplification stylistique, pour ne pas dire carrément d'archaïsme. La peinture romane est archaïque, hein, en Occident comme dans le monde byzantin. Contraste avec le raffinement de celle qui se manifeste en Chine au Xe et XIe siècle. C'est ce que vous découvrez sur l'écran. Comment peut-on comparer? Ça ne se compare pas du tout. La peinture romane de chez nous est au même moment ce que les peintres chinois peignaient, comme cette image que vous découvrez. C'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire ce contraste. Hein. Et alors, ces contrastes esthétiques sont nombreux, contrastes esthétiques qui différencie l'approche germanique du paysage et des forêts, approche sombre, inquiétante. La forêt germanique est inquiétante. Bon, ce que rendaient parfaitement les Altdorfer, Cranach, Durer et j'en passe, enfin ces peintres de l'école du Danube, contraste avec les paysages peints à la même époque par les artistes japonais, chinois, où l'art de représenter les bambous relève, au même titre que la calligraphie, d'une philosophie zen et donc bouddhiste. Et pourtant, c'est parfaitement contemporain. L'école du Danube, les paysages que ces peintres allemands laissaient à la Renaissance, et la peinture donc de bambou, la peinture de paysages japonaise ou chinoise au même moment. Alors, oui, c'est tout à fait frappant, et ces contrastes esthétiques, donc finalement, sont assez frappants. Alors, entre 1550 et 1850, hein, la détérioration générale du climat en Europe a été qualifiée de petit âge glaciaire par les climatologues. Hein, cette période est caractérisée par des hivers longs et rigoureux, des étés relativement frais et humides, et une avancée notable des glaciers. La température moyenne aurait été inférieure de 1 à 2 degrés à la température moyenne que nous connaissons aujourd'hui. La période a fait l'objet d'une célèbre étude par Emmanuel Leroy Ladurie. L'étude, c'est « Histoire du climat depuis l'an 1000 », où l'historien, en se gardant farouchement de tout déterminisme climatique, il était très remonté contre cette idée, Leroy Ladurie, attire l'attention sur la problématique des modifications majeures du climat en histoire. C'est ce qui l'intéressait, la problématique des modifications majeures du climat en histoire. Bon. Alors c'est vraisemblablement raison des multiples conséquences économiques et sociales d'une détérioration progressive du climat à partir du XIVe siècle que les établissements vikings du sud-ouest du Groenland disparaissent. Ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, ils disparaissent au XIVe siècle. Le refroidissement refoule beaucoup d'Inuits vers le sud du Groenland, et donc vers les bonnes terres occupées par les colons. Les colons, ce sont les vikings, à l'époque à laquelle nous sommes. Hein. Si les paysages flamands et néerlandais des XVIe et XVIIe siècles rendent compte de la dureté du climat, l'iconographie générale tend vers les douceurs et plaisirs galants. Et ça, c'est très vrai dans l'Europe baroque, mais ça l'est aussi en Iran et en Inde. Donc c'est toujours des contrastes esthétiques, finalement, qui nous intéressent. Hein. Alors, contrastes esthétiques aux fêtes galantes de Watteau, de tendance rococo, correspondent les courtisanes de Moronobu au XVIIe siècle et les coquettes d'Utamaro au XVIIIe siècle, que l'art de l'ukiyo-e, l'estampe japonaise, restitue à merveille. Et pourtant, le temps est glacial. Le temps est glacial. Le temps est glacial, et c'est toujours, bien sûr, donc des moments marqués par des famines, par la disette, par des guerres, que sais-je encore. Mais enfin, voilà, les contrastes sont frappants. Au décor de volutes, d'enroulements, de rinceaux fleuris des meubles rococo européens du XVIIIe siècle, correspond le mobilier impérial de la dynastie Qing. Quel contraste quand on sait qu'à partir de 1691, ça s'affiche sur la projection, la France connaît une nette détérioration du climat. De longues périodes de gel marquent l'hiver et retardent la croissance des céréales, tandis qu'au cours de l'été, pluie et froidure gâtent les récoltes. Bon, ce sont les années terribles du roi Soleil. Et pourtant, bah, c'est l'époque du baroque, quoi. C'est l'époque des plaisirs. Hein. Alors ainsi, il y a un contraste fameux. Le prix du pain augmente, Louis XIV fait vendre du pain bon marché dans plusieurs points de la capitale pour enrayer la famine. L'hiver 1693-1694 est très froid et très sec. Cette crise aurait fait presque autant de victimes en 2 ans, 1693-1694, que pendant les 4 années de la guerre 1914-1918. C'est très très impressionnant. Hein. Et pourtant, quelle est l'image que l'on retient hein, de cette époque. Bon, et ben c'est celle qui s'affiche sur la projection. En 1708, le temps se détraque à nouveau. La neige recouvre alors la France et les oiseaux tombent en plein vol, nous disent les chroniqueurs de cette époque, à cause du froid. La situation demeure très difficile jusqu'en 1709. Et cette année-là, en 1709, la manufacture de Meissen bénéficie d'une prodigieuse renommée, fondée notamment sur ses imitations de la délicate céramique d'Extrême-Orient. Coïncidence stylistique, non, les chinoiseries sont à la mode, bien sûr, en Europe, depuis le temps de Louis XIV au moins. Mais enfin, quel contraste hein, entre la dureté du climat, la dureté de la vie quotidienne, hein, et puis cette imagerie qui l'emporte au XVIIe et au XVIIIe siècle, pour simplifier, baroque. Imagerie des plaisirs, si vous voulez. Alors, on l'a dit, il n'y a pas de déterminisme climatique, donc on aura du mal à faire le lien, et vous le comprendrez aisément, entre des conditions climatiques et les révolutions mexicaines et russes dont les causes sont sociales et politiques. Une des conséquences des révolutions est un effet sur la création artistique. Et ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que si on ne connaît pas l'histoire des révolutions mexicaines et russes, on ne comprend pas le muralisme mexicain, on ne comprend pas le constructivisme et le suprématisme russe. Donc c'est ce que l'on essaiera de voir. Toutefois, on remarquera une coïncidence entre la récession américaine consécutive au krach de 1929 et la sécheresse dans le sud des grandes plaines des États-Unis au cours des années 30. Hein, c'est ce qu'on appelait le Dust Bowl. Aux États-Unis, les années 30 sont marquées par la Grande Dépression et des troubles politiques autour de la passion de Sacco et Vanzetti. Alors là, effectivement, il y a le Dust Bowl qui n'a rien arrangé du tout dans cette situation, donc cette Grande Dépression, cette récession américaine. Trois famines ont frappé l'ex-URSS. En 1921 et 1922, une terrible famine frappe la jeune Union soviétique. L'Ukraine et la région de la Volga sont particulièrement touchées. Il y aurait eu entre 1 250 000 et 5 millions de morts. Entre 20 et 24 millions de personnes auraient subi cette disette, hein, donc 1921-1922. Et pourtant les causes ne seraient pas climatiques, mais là encore politiques. Décembre 1932, août 1933, il y a trois famines hein, qui ont frappé l'ex-URSS, ça c'est la deuxième. Une grande famine survient en Ukraine, elle est provoquée par une réforme agraire de Staline. Elle fera 5 millions de morts, rien à voir avec le climat. Troisième famine, celle de 1947, toujours en Ukraine. Une Ukraine ravagée parce que quelque temps plus tôt, Staline avait ordonné de pratiquer la politique de la terre brûlée face à l'offensive nazie. Et on retrouve des événements comparables en Chine avec des conséquences sans doute plus dramatiques encore. Alors les œuvres étudiées à l'occasion de ce cours, Pro et To d'Alexandre Rodchenko, Les piliers de la société de Georges Grosz, La passion de Sacco et Vanzetti de Benchan rendent compte de ces contextes. Alors oui, l'art contemporain est passionnant. L'art du XXe siècle est passionnant. Et alors cette fois-ci, la création artistique rend parfaitement compte des drames humains du XXe siècle. Et ça partout dans le monde, que vous soyez au Mexique, en Russie, aux États-Unis, donc, ou ailleurs dans le monde. Ça, c'est toute la force de l'art contemporain. Donc, cette façon qu'ont eu les artistes de coller à leur actualité, c'est mal dit, de rendre compte des drames humains du XXe siècle qu'ils ont partagés, qu'ils ont vécu. Donc, ça sera l'occasion, effectivement, ça, de notre dernier chapitre. Ça, c'est le dernier chapitre qui s'affiche sur l'écran de nos jours, le dérèglement climatique, thème religieux et spiritualité dans l'art contemporain. Le XXIe siècle sera-t-il spirituel? Alors, on ne va pas insister sur notre actualité climatique, elle est déréglée, on le sait. Donc, j'ai choisi, en conclusion du programme, de retenir les thèmes religieux et la spiritualité dans l'art contemporain. Propres ces thèmes à rendre la détresse humaine si sensible au XXe siècle qu'elle semble même désigner ce siècle. Azoumé pose la question du sacré à notre époque. Bouddha semble rire de notre attachement matérialiste. Image qui concentre en elle toute la souffrance humaine, c'est la crucifixion. La crucifixion. Elle est emblématique de la condition de l'homme et c'est la raison pour laquelle elle est si répandue dans l'art contemporain. Hein, quelle que soit donc la nationalité de l'artiste ou sa confession, elle est répandue partout. Hein. Et à cela s'ajoutent d'autres images sacrées hein, qui sont très présentes dans l'art contemporain. Et alors, on est en droit de se poser pourquoi cette imagerie sacrée, souvent détournée, pourquoi est-elle aussi prégnante dans l'art contemporain, si ça n'est pour rendre justement la détresse. Alors oui, on va insister sur cette iconographie, ce qui permet effectivement de parler de l'art actuel, de l'art contemporain, de l'art qui est l'art d'aujourd'hui, hein, si vous voulez. Et là aussi, pareillement, avec Denis Peterson, Dust to Dust, c'est un tableau dont l'iconographie est religieuse, si l'on veut. Les martyrs de Bill Viola, c'est pareil, hein, c'est une référence religieuse, à l'iconographie religieuse. Et on conclura par ce sujet, un artiste américain, Rothko. Rothko rêvait que l'homme contemporain puisse jouir de lieux, des chapelles qui n'auraient rien de religieux, et dans lesquels l'homme contemporain, l'homme d'aujourd'hui, expérimenterait la spiritualité. L'artiste américain relançait ainsi la question de savoir si notre siècle sera ou ne sera pas spirituel. En attendant, les aborigènes d'Australie continuent d'explorer le monde du rêve. Ils le font depuis 50 000 ans. Ils sont sans doute plus proches d'une vérité que nous ne le sommes nous-mêmes, constamment distrait par un environnement bruyant et surtout très agité visuellement. Enfin voilà, pour conclure notre programme, l'art contemporain est provocateur, déstabilisant, il est engagé, il est d'une très grande richesse, toujours aussi vivant en Afrique et en Australie, point de départ et conclusion de notre programme.